Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Bonjour et bienvenue sur L'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variés. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliquen et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Lisa Soulois, cofondatrice de la première entreprise dédiée à la santé du ventre, Dijo Paris. Je connaissais leur concept depuis quelques années, puisque j'ai toujours été sensible à tout ce qui concerne la santé mentale et physique, mais leur notoriété a complètement explosé il y a quelques semaines lors de leur passage à l'émission « Qui veut être mon associé ?». Ensemble, nous revenons sur le point de départ du projet, leur secret de pérennité, les coulisses de leur association et leur passage dans la célèbre émission. Si vous aimez l'épisode, un commentaire 5 étoiles ou un partage sur vos réseaux sociaux nous ferait énormément plaisir. Belle écoute ! Hello Lisa, enchantée.
Hello Laura.
Je suis contente d'être avec toi ce matin. Moi, tu me demandais là justement, c'est drôle, avant de commencer cet épisode, comment je vous connaissais. Et bah figure-toi que je m'intéresse au bien-être en fait depuis 3 bonnes années, à tout ce qui est santé mentale et santé physique. Et je suis aussi beaucoup de personnes sur Instagram qui sont passionnées en fait par ces sujets. Et je crois, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que je t'ai découverte dans les stories de Claire Mondret, qui est une créatrice de contenu. Mais en tout cas, je vous suivais. Et donc c'est drôle quand je vous ai vu à l'émission « Qui veut être mon associé ?» là où vraiment il y a une partie aujourd'hui, je pense, de votre communauté qui vous connaît depuis l'émission. Moi, je vous connaissais déjà, donc j'étais trop contente en plus de vous voir. Et ça va être l'occasion de parler de toute votre aventure entrepreneuriale et de ce passage dans l'émission grâce à ce podcast. Mais d'abord, j'ai envie de te demander comment tu vas, Lisa, aujourd'hui ?
Ça va très bien. C'est vendredi, donc j'avoue que j'ai bien hâte d'être en week-end parce que les semaines sont intenses. Mais tout va bien, écoute. Donc là, aujourd'hui, on est quelques semaines après l'émission qui va être mon associé. Donc forcément, gros coup de projecteur. On a reçu énormément de messages de soutien, énormément de commandes. Donc on a des journées qui sont très remplies pour pouvoir honorer toutes ces commandes.
C'est fou, j'ai l'impression qu'il y a eu une explosion après l'émission de commandes et d'interviews et de demandes de passages radio. Enfin voilà, votre actu doit être méga chargée, mais je pense que c'est aussi une belle un bel accomplissement pour vous. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc tu es la fondatrice de Dijo, mais peut-être tu peux nous dire un peu plus d'éléments sur toi et nous expliquer si toi c'était un rêve d'entreprendre.
Très bien, donc oui, effectivement, je m'appelle Lisa, j'ai 32 ans. J'ai créé Dijo avec Anouk, mon ami d'enfance, il y a maintenant presque 4 ans. Et moi, à titre personnel, j'ai toujours été passionnée par le sport. J'ai grandi à Chinon, en Indre-et-Loire, donc je faisais beaucoup de sport depuis toute petite. Et c'est vraiment ce qui m'a guidée dans mes choix professionnels. Donc j'ai fait une prépa après mon bac et ensuite je suis partie en école de commerce à Schema Business School.
J'ai fait le SC Tour Poitiers moi, mais j'avais mis dans mes choix Schema.
Oui, mais c'est Tour effectivement, juste à côté de Chinon du coup.
Ah voilà, oui.
Donc j'ai fait Schema, j'ai fait tous mes stages dans le milieu de l'événementiel et du sport. Et c'est vrai que dans ma vie perso, en faisant beaucoup de sport et notamment de la course à pied et des marathons, je me suis très vite intéressée à l'alimentation et de manière très naturelle, l'alimentation fait partie aussi d'un sujet qui m'intéressait. Donc vraiment tout ce qui était sport bien-être, c'était vraiment mon dada. Je faisais un peu le coach pour toutes mes copines, la coach pour toutes mes copines. Ouais. Et quand Anouk est tombée malade en 2018, je lui ai parlé des probiotiques, de l'alimentation, des choses qui pourraient l'aider à aller mieux et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on a eu le déclic. Justement de se dire bah en fait le ventre c'est vraiment le pilier de la santé, il régule absolument tout, alors qu'aujourd'hui on a l'impression que le ventre bon on s'en occupe pas trop, on peut avoir mal au ventre mais finalement on va pas trop s'en soucier. Aujourd'hui c'est différent, mais quand on s'est lancé il y a 4 ans, vraiment les gens nous prenaient pour des extraterrestres à parler du ventre, mais pourquoi vous vous y intéressez? Et en fait nous on était vraiment convaincus que le ventre régulait énormément de choses,
bien sûr,
et on a eu envie.
Bah c'est le deuxième cerveau, hein.
Exactement, on dit que c'est le deuxième cerveau et c'est vrai, voire le premier, des fois on se pose un peu la question, mais effectivement il y a plus de 200 millions de neurones au niveau du ventre, et donc tout au long de la journée, le ventre envoie des messages au cerveau, les messages vont dans les deux sens, ça communique. Et voilà, et tout ce qui est stress, émotion, c'est vraiment lié directement au ventre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'expressions qui utilisent le mot ventre, du type j'ai la boule au ventre. Voilà, donc on sait que vraiment le centre émotionnel de notre corps se situe au niveau du ventre.
Exactement. Et vous avez, enfin, comment on passe du coup de l'idée à l'action? Parce que j'imagine qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, qui ont envie d'entreprendre. Qu'est-ce qui a fait que vous avez sauté le pas?
Alors, déjà, je vais rentrer un petit peu plus en détail peut-être pour sur justement les débuts de Dijo. Je pense que ça va être intéressant de comprendre ce qui s'est passé. Mais donc en 2018, moi j'ai mon amie Anouk qui se sent très mal, donc on lui diagnostique la thyroïdite d'Hashimoto, qui est une maladie auto-immune, donc un dérèglement de la thyroïde. Et donc les symptômes, c'est une immense fatigue, perte de poids, perte de cheveux. Et donc à ce moment-là, elle annule son stage de fin d'études. Elle est vraiment perdue parce que bah en fait, elle se réveille le matin, mais elle a aucune énergie, aucune force. Elle sort aussi d'un parcours similaire au mien, prépa, école de commerce, elle fait ses stages en finance, donc jusqu'à présent, elle s'était jamais posé la question vraiment finalement de ce qu'elle voulait faire, mais sa maladie en fait lui met un stop quoi, elle vraiment lui met un stop. Ouais. Et donc moi comme j'expliquais à ce moment-là, moi je suis à fond toujours dans tout ce qui est sport, complément alimentaire, alimentation, et donc je prenais des probiotiques notamment dans le cadre de mes prépa marathons. Et en fait je voyais à quel point ce qui se passait dans mon ventre et dans mon corps, enfin ce qui se passait dans mon ventre finalement avait de l'impact sur mon corps et mon mental. Voilà, enfin quand on fait du sport, quand on veut s'entraîner. Si on mange pas bien, en fait, on n'a vraiment pas les mêmes performances sportives derrière. Et donc, je lui parle des probiotiques, de l'importance de l'alimentation, des choses qu'elle pourrait faire pour justement mieux vivre avec ses symptômes. Et c'est vraiment en prenant les probiotiques que Anouk, elle va voir ses symptômes s'atténuer. Alors, pas que les probiotiques, hein, je mets un gros là. Bien sûr, il y a énormément d'autres choses qu'elle a faites au niveau de son hygiène de vie, mais en gros, son hygiène de vie plus les probiotiques, ça lui permet finalement de mieux vivre avec cette maladie et de reprendre des forces. Et en fait, à ce moment-là, nous, c'est un réel déclic. C'est qu'on se dit, moi, je prenais des probiotiques pour mon mieux-être, mais comme je n'étais pas touchée par quelque chose qui me gênait vraiment au quotidien, je n'ai pas forcément rendu compte à quel point ça jouait sur ma santé. Je me sentais hyper bien, tout allait bien, mais du coup, je ne savais pas forcément si c'était lié à ça. Voilà, c'était normal. Et en fait, avec l'histoire d'Anouk, on se dit, mais en fait, le ventre, c'est incroyable. Et donc, à ce moment-là, on a vraiment juste cette conviction qui grandit et c'est... Voilà, cette adrénaline qu'on ressent où on se dit, mais attends, mais il y a quelque chose à faire. Et vraiment, il faut qu'on fasse la révolution du ventre, quoi. Il faut qu'on dise aux gens de prendre soin de leur ventre, c'est ce qu'il y a de plus important.
Mais c'est bien, vous avez vu grand dès le départ.
Nous, c'est peut-être un très mauvais conseil que je vais donner, mais en fait, nous, on n'a pas fait d'études de marché avant de se lancer. On a eu cette conviction, et peut-être que si on avait fait une étude de marché, on se serait dit, il faut pas le faire. Mais en fait, là, on était juste tellement convaincus qu'il fallait qu'on parle aux gens de l'importance du ventre, qu'on s'est pas posé énormément de questions. Et ce qui a joué aussi, je pense, c'est que Anouk, elle, du coup, elle avait arrêté son stage de fin d'études à cause de sa maladie. Moi, je venais de quitter mon ancienne boîte qui avait été rachetée par un grand groupe. Bref, ça me convenait plus et je faisais des missions de freelance justement en communication et marketing et je préparais un potentiel départ en Australie parce que mon rêve c'était de partir travailler en Australie pendant un an ou deux. Et donc cette situation fait qu'on a du temps. En fait, on a du temps et on se met naturellement à bosser sur le projet qui nous passionne l'une et l'autre. Et en fait, on se met à passer nos journées ensemble à parler de ça. Et en fait, c'est vraiment comme ça, une brique après une autre, que cinq mois plus tard, on a lancé la campagne de crowdfunding sur Ulule. Un peu plus six mois plus tard. Et ensuite, c'était le début de Dijo. Voilà, c'était le début de Dijo et c'est vrai que c'est marrant d'en parler là, de refaire l'histoire même quasiment 4 ans après parce que au début il n'y a pas eu trop cet élan de on lance une entreprise qui va révolutionner le marché et en 3 ans on va faire n'importe quoi 10 millions de chiffres d'affaires. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent comme ça avec des business plans super établis. Nous on s'est juste dit on a envie de faire ça. On a envie de dire aux gens de prendre soin de leur ventre. On a envie de créer la meilleure cure de probiotiques possible. On sait que c'est important pour la santé des gens. On a envie d'aider les gens à aller mieux. Et en fait, c'est ça qui nous a guidés tout au long de notre parcours et de cette aventure.
C'est drôle parce que je viens d'être sur Instagram et je viens de voir un post de, son nom m'échappe, d'un des investisseurs de qui va être mon associé qui a les cheveux blonds. Je me souviens plus de son nom.
Ah, Eric Archevêque.
Voilà, qui vient de faire un post sur le fait que il croit pas au business plan. Donc...
Ah bah ça me rassure. Je me suis dit si à ce moment on est les seuls à avoir fait comme ça, vraiment faut pas.
Eh bah, tu vois, c'est drôle. Synchronisation du jour. Et donc j'imagine que le partage des tâches a été très fluide entre vous puisque Anouk était dans la finance, toi tu étais dans la communication marketing. Donc directement, j'imagine que vous êtes répartis les rôles selon vos spécialisations.
J'ai fait un post LinkedIn sur le sujet il y a pas longtemps. Mais effectivement, la première question qui revient tout le temps entre Anouk et moi, c'est comment vous répartissez les tâches. Et donc, finalement, dans Dijo, alors au début, c'est un peu différent. Maintenant, c'est un peu différent, mais au début, on faisait vraiment tout à deux. La com, en fait, au début, on faisait tout nous-mêmes. Donc, clairement, entre la communication, le site internet, la logistique, le développement commercial, en fait, on faisait tout à deux. Tout simplement parce que on se sent plus forte à deux, on est hyper complémentaires, on adore partager nos idées parce que en fait réfléchir seul c'est bien, mais quand on a quelqu'un en face avec qui on peut en parler et challenger nos idées, c'est vraiment mieux. Et du coup au début on était on l'est encore mais hyper fusionnel et on partageait tout le temps. Aujourd'hui, on se répartit quand même plus les tâches parce que forcément, on n'a pas le choix. Mais on est toutes les deux sur des missions en com, en commercial, en logistique. Enfin, c'est vraiment, il y a pas une qui a un domaine particulier. Il y en a pas une qui a la communication et une qui a les finances, comme tu le disais dans ta question. Nous, on fonctionne pas comme ça. On fonctionne plus par des leads projets. Où en fait, il y a un projet, il y en a une qui va le piloter, qui va être à la tête du projet, qui va le mener. En revanche, automatiquement, on se parle de l'ensemble des sujets, on partage les idées, les décisions. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, on a toutes les deux une vision vraiment hyper 360 de la boîte. Et en plus, comme je disais, nous, on se sent vraiment plus forte à deux dans nos décisions. Et on adore ce fonctionnement-là. Et c'est vrai qu'au début, quand on s'est lancé, tout le monde nous posait la question, mais alors comment vous répartissez les tâches? Et en fait, quand on manquait de confiance en nous, on racontait, on mentait, parce qu'on se disait, on sentait que c'était la bonne réponse à donner. Et aujourd'hui, on a décidé de dire la vérité.
C'est ça, ça peut en inspirer beaucoup qui justement se mettent des barrières ou des obstacles.
Exactement. Et en fait, l'importance dans l'association, c'est plutôt, je dirais déjà, la valeur. Les valeurs qu'on a, la vision qu'on a de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut vouloir aller au même endroit, sinon forcément les décisions pourront pas être communes si on n'a pas le même objectif. Et ensuite, je pense qu'il faut vraiment juste se dire, bah, avec quelle personne j'ai envie de vivre cette aventure qui va être pleine de bons moments, mais aussi pleine de moments difficiles, avec qui je serai prêt demain à partir faire la guerre, quoi. C'est plus ça, je pense, la question qu'il faut se poser quand on cherche un bon associé. Et après, s'il manque des compétences en interne, soit il faut recruter, soit il faut passer par un partenaire ou un freelance. Mais en tout cas, dans votre choix d'association, ne réfléchissez pas en fonction des compétences, mais plutôt en fonction de justement la vision et l'entente entre les deux personnes, quoi.
Hyper intéressant. Et c'est vraiment cette bonne entente qui va permettre de relever les challenges. Alors moi, j'ai beaucoup entendu, tu vois, l'adage qui dit n'entreprenez jamais avec des amis ou avec votre conjoint ou avec la famille, parce que ça peut créer pas mal d'embrouilles, en fait. Et derrière, on plante la boîte et puis on plante l'amitié ou la personne dont qui on est proche. Donc c'est hyper intéressant aussi ta manière d'expliquer comment tu choisis la bonne personne avec laquelle s'associer pour justement relever ces challenges. Et donc c'est de ça dont je voudrais parler. J'imagine qu'il y a plein de challenges quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, surtout dans les probotiques, qui est quand même en termes de réglementation, commercialisation, j'imagine que c'est très particulier. Quels ont été les plus grands défis de cette aventure et comment vous les avez relevés?
Alors, le plus grand défi, comme tu parlais des probiotiques, je pense que ça a été vraiment de créer notre première formule, parce que, donc, Anouk et moi, comme je le disais, on n'a pas de formation scientifique. Et donc, à ce moment-là, on investit 2000 euros chacune dans l'entreprise. Et on part à la recherche de notre labo pour justement faire cette fameuse cure de probiotiques où on voulait rassembler les meilleures souches dans les meilleures conditions, parce qu'il faut savoir que les probiotiques sont des micro-organismes vivants, donc c'est fragile. Donc en fait, tout le process de fabrication est super important pour garantir la fraîcheur et donc l'efficacité. Et ensuite, il faut travailler sur forcément cette formulation pour qu'elle soit la plus optimisée possible et forcément la plus efficace. Sauf que forcément, quand on est deux jeunes femmes d'école de commerce et qu'on va voir des pharmaciens ou des laboratoires, en fait, au début, ils nous prennent pas forcément au sérieux. Et puis, ils imposent des minimums de commandes qui sont énormes. Et en plus, si on sent pas un partenaire de confiance qui est justement prêt à nous accompagner, c'est difficile pour nous, parce que sans background scientifique, comment tu fais confiance, comment tu choisis ta formule, c'est compliqué. Et donc la première difficulté, ça a été de trouver ce fameux partenaire, ce laboratoire. Et on a trouvé ce laboratoire familial spécialisé dans les probiotiques, qui est à 5 km de notre usine de biochimie où sont fabriquées et cultivées les souches de probiotiques. Donc en termes de fraîcheur, c'était extraordinaire. Et en fait, il se trouve que la gérante du laboratoire, elle travaillait avec son père. Et donc, il y a un côté, très familial, où elle nous voit et je sais pas si elle a eu pitié de nous, mais elle s'est dit bon, elles sont tellement convaincues, non, je peux pas les laisser comme ça. Et donc elle nous a on a passé 3 mois avec eux à développer, chercher les meilleures souches, à nous expliquer comment ça fonctionnait le microbiote. On a suivi des super formations avec elle, enfin ça a été vraiment hyper enrichissant. Et surtout, elle acceptait de produire au début un minimum de commandes qui était effectivement très faible par rapport à ce que nous demandaient les autres laboratoires, où c'était forcément 10 000 unités minimum. Et nous, on n'avait pas du tout les fonds pour lancer une telle production. Donc, on voulait commencer avec 100 unités, voir si éventuellement ça pourrait marcher et petit à petit augmenter les quantités. Quand je parle de ça, je me rends compte que Dijon, c'est vraiment une aventure humaine, parce qu'après, tout au long de cette aventure, on a vraiment fait que de rencontrer des personnes exceptionnelles, et un partenaire après l'autre. Aujourd'hui, on travaille vraiment avec des gens de confiance depuis 3 ans, et c'est assez extraordinaire comme histoire. Donc le premier challenge, ça a été ça, et le deuxième challenge, qui est quand même le cœur du métier de Dijon, c'était de finalement parler d'un sujet dont personne ne voulait parler, le ventre.
Ouais, parce que rappelle-moi, c'était il y a combien de temps que ça existe? C'était il y a combien de temps que ça
a commencé? Alors nous, on a commencé à travailler sur le projet en septembre 2018 et on a lancé notre campagne Ulule le 8 mars 2019.
Oui, et à cette époque, le ventre, on en parlait peut-être moins et on parlait moins, j'ai l'impression quand même, de santé, voilà, que ce soit physique ou mentale.
Exactement, on parle peu du ventre. Voilà, il y a eu le livre, Le germe discret de l'intestin.
Je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler.
Il est sorti un peu plus tôt, je crois qu'il est sorti... Je sais plus, peut-être 2017 ou même un peu avant, mais récent. Mais bon, ça a été quand même un best-seller. Et en fait, ce livre, il a vraiment aidé à démocratiser justement le ventre et comment ça fonctionne. Mais sinon, effectivement, les gens n'aiment pas trop parler du ventre. Et surtout, tout ce qui est probiotique. Les gens consomment des probiotiques parce qu'ils ont été malades, parce qu'ils ont pris des antibiotiques, mais ils consomment pas des probiotiques dans une optique de mieux-être. Et surtout, ils achètent pas des probiotiques en pharmacie. Nous, on arrive en disant, bah nous, on veut que les gens ils aient des probiotiques dans toute leur salle de bain, dans toute leur cuisine, que ça fasse partie maintenant de leur quotidien. Et donc, on a essayé vraiment de créer ce nouveau geste de bien-être. Hein. D'ailleurs, on le dit, Dijo, c'est un nouveau geste de bien-être, c'est celui de prendre soin de son ventre. Et du coup, ça, au début, c'était compliqué parce que les probiotiques, les gens savaient pas ce que c'était, comprenaient pas l'utilité de prendre soin de son ventre. Et du coup, on a vraiment fait énormément de pédagogie et de communication pour vraiment lever les tabous sur le ventre et pour dire aux gens, mais en fait, toutes ces petites gênes que vous ressentez au quotidien, ces petits ballonnements, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Et finalement, quand on en parlait, on voyait que tout le monde était concerné. Et très vite, on s'est dit, OK, enfin, on sait qu'il y a quelque chose à faire. Et en fait, on se rendait compte que les gens, finalement, tout le monde était concerné par des petits soucis de ventre et globalement... Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit je veux pas prendre de probiotiques. Donc c'est bien que c'est bien qu'il y ait un sujet. Donc ça, ouais, c'était un gros challenge et c'est toujours le challenge d'ailleurs de 10 jours hein, de faire cette fameuse révolution du ventre et de dire et de montrer à tout le monde que le ventre est la chose la plus importante dans notre corps.
Exactement. Et c'est aussi le ventre qui porte la vie quand même. Toi, j'avais envie de te demander s'il y a eu un moment de basculement en termes de notoriété, si par exemple s'il y a eu une action que vous avez mise en place, un process, un format qui vous a fait passer de l'ombre à la lumière.
Alors nous c'était alors de hors qui va être mon associé, j'imagine.
Ouais, bien sûr, oui.
Non, alors nous on a été vraiment, on s'est vraiment développé au fur et à mesure avec Dijo. Il faut savoir qu'on n'a pas levé de fonds, donc on a tout fait nous-mêmes pendant hyper longtemps et petit à petit on s'est entouré, et petit à petit on a commencé à bosser avec des freelances ou des experts dans leur domaine. Mais du coup, ce qui fait que même sur les réseaux sociaux, en fait, vraiment notre communauté, on l'a construite avec notre trip, quoi. Donc je pense que nous, ce qui a payé, c'est juste que ça fait 4 ans qu'on donne tout en termes de communication. On n'a jamais rien lâché. Au début, on allait à la sortie de toutes les salles de sport faire des animations pour convaincre les gens. On en fait encore aujourd'hui des événements avec nos clients. Pour Noël dernier, là, on a organisé un événement en Galerie Lafayette. Il y a 200 personnes qui sont venues nous voir, alors qu'on pensait faire un événement avec 20 personnes. Et je pense que c'est vraiment... c'est cette proximité avec notre communauté qui est vraiment notre force depuis le début et qu'on essaye à tout prix de garder, parce que même pour nous, c'est hyper important. Le fait de faire des lives hyper régulièrement. Donc, pour moi, il n'y a pas un événement qui a fait qu'on n'a pas eu sur l'ensemble des réseaux, je pense pas, parce que vraiment cette communauté, on l'a construite dans la durée, au fur et à mesure, et par contre, à chaque fois, on rajoutait une brique après une autre. Au début, on faisait forcément que de l'organique, et après, notamment au moment du Covid, on a commencé à pouvoir avoir plus de moyens, faire des ads. Mais c'est vrai que tout ça, c'est vraiment petit à petit. Et je pense que finalement, de pas avoir d'argent au début, ça nous a vraiment aidé parce que ça nous a forcé finalement à comprendre ce que les gens attendaient, à comprendre quel message les touchait. Parce qu'en fait, quand au début, t'as énormément d'argent, alors certes, je pense que ça peut te permettre d'aller beaucoup plus vite et c'est génial. Et en même temps, peut-être que ça t'empêche un peu de te poser les vraies bonnes questions qu'il faut que tu te poses dès le début. Et c'est vrai que nous, au début, on passe notre vie à répondre aux clients, à leur écrire, à leur téléphoner. Quand si on avait le moindre message négatif, on rappelait directement la personne. Et en fait, tout ça, ça nous a vraiment permis de, je pense, prendre les bonnes décisions, que ce soit en termes de communication, mais aussi en termes de développement dans la vie de Dijon. Voilà, qu'est-ce qui est important de faire aujourd'hui pour mieux répondre à la demande des clients.
Tout à fait. Vous êtes toutes les deux aujourd'hui ou vous avez une équipe pour vous accompagner?
Alors, on est cinq chez Dijon, donc Anouk et moi. On a Adèle qui est en CDI chez nous, qui s'occupe de toute la partie admin, logistique et B2B. Et on a un alternant qui est en charge des réseaux sociaux et une alternante qui est diététicienne et experte en nutrition et qui nous accompagne sur toute la partie R&D et accompagnement alimentation pour les clients. Et on travaille avec des partenaires aussi. On travaille avec une agence qui nous aide sur toute la partie site internet. On travaille avec une agence sur toute la partie mailing et on travaille avec une agence sur toute la partie marketing acquisition.
Et à quel moment vous avez réussi à être rentable? Et donc du coup, j'imagine, c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, ok, bon bah, il serait peut-être temps d'agrandir l'équipe, de nous soulager un petit peu. Comment ça s'est passé ça cette étape?
Alors nous, on a été rentable depuis le jour 1, puisque finalement, en fait, on a fonctionné vraiment comme ça, c'est qu'on vendait nos produits, on faisait une production et on n'avait aucun frais parce qu'on se payait pas, on n'avait pas de bureau. Et on faisait tout nous-mêmes. Donc, ça a été, nous, le nerf de la guerre depuis le jour 1, hein, d'être rentable. Enfin, ça n'a jamais été une question. On n'aurait pas pu se développer sans être rentable parce qu'on n'avait pas de levier financier. Après, ce qui nous a énormément aidé, c'est qu'en effet, on a pu avoir des financements non dilutifs, donc prêts bancaires, prêts d'honneur, prêts BPI. Donc, tout ça, ça nous a permis de respirer un peu, notamment de pouvoir recruter nos premiers alternants. Donc notre première alternante, c'était Adèle, qui nous a rejoint un an après et qu'on a recruté en CDI après son alternance. Mais avec Anouk, on a vraiment bossé à deux pendant très longtemps, ouais, pendant plus d'un an, on était toutes les deux. Et aujourd'hui, on est cinq, donc forcément, là, on commence à réfléchir pour un peu mieux se structurer parce que c'est vrai que la charge de travail augmente et que nous, on est sur énormément de sujets. Mais pour nous, le recrutement, c'était difficile au début parce qu'on était tellement fusionnel qu'en fait, on voyait pas comment on pourrait intégrer quelqu'un dans l'équipe ni ce qu'on pouvait déléguer parce qu'on voulait tout faire nous-mêmes. Au bout d'un moment, il faut passer l'étape hein, de lâcher ses réseaux sociaux, lâcher son SAV. Et donc, c'est à ce moment-là que, on passait notre temps à le faire. Donc, au final, tu peux plus faire autre chose et ta boîte, elle peut pas avancer comme ça.
Oui, si t'es que dans l'opérationnel tout le temps, t'as plus le temps pour le stratégique et pour les grandes
décisions,
j'imagine.
Exactement. Et donc, on a recruté des alternants qui font vraiment un travail monstrueux dans notre équipe. Et aujourd'hui, on ne verrait vraiment pas revenir à deux. Je pense que clairement, on se dit « Ah non, mais on meurt, c'est plus possible ». Mais c'est vrai qu'on a mis beaucoup, beaucoup de temps à le faire. Je pense qu'il nous manquait de la maturité aussi professionnelle où en fait nous-mêmes on était tellement en train de tout tester et on savait finalement pas trop où on allait que on n'aurait pas été capable de recruter quelqu'un et de dire bah toi ta mission c'est ça parce qu'en fait nous on faisait tellement de choses différentes et on fonctionnait beaucoup à l'opportunité et on voulait tout faire donc c'était quand même compliqué d'avoir quelqu'un qu'il faut que tu cadres. Et donc, on a attendu justement d'avoir plus de stabilité pour pouvoir recruter nos premiers alternants. Et voilà. Et là, du coup, on est 5 et on va essayer de recruter 3 nouvelles personnes d'ici la fin de l'année.
Waouh. Bravo. Si on parle un petit peu de l'émission, qui veut être mon associé ? Quel est le point de départ de cette envie de passer dans l'émission ? Comment ça s'est passé ?
Le point de départ, c'est de se dire pourquoi pas nous, finalement. Ce serait dommage de ne pas le faire. C'est quand même une super émission. On voyait que les boîtes qui passaient dans l'émission, derrière, elles avaient vraiment des super beaux développements aussi. Et à ce moment-là, ça fait... quand on a postulé, c'était en juin 2022. Donc, ça faisait 3 ans.
Ouais.
Donc, on avait dépassé le million de chiffre d'affaires en 2021. Et on se dit, bon, maintenant, c'est quoi la next step ? Et donc, on sent aussi qu'après 3 ans d'avoir fait beaucoup de choses nous-mêmes, de toujours s'être débrouillé pour y arriver, pour trouver les meilleures solutions, on se dit, finalement, ça peut quand même être intéressant pour nous d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un avec de l'expérience. L'envie, elle vient de là. C'est de se dire, l'émission, on suit quand même ce qui se passe pour les entreprises qui passent. Et en plus, nous, on sent qu'on a un moment de la boîte où il y a un petit tournant à prendre. Et il faut pas, qu'on le loupe. Et donc, on se dit, on postule. Après dans ce genre de choses on a toujours l'impression que on va jamais être rappelé, mais on a été rappelé le lundi, on avait postulé le vendredi, et en fait le lundi il y a une nana de la prod qui nous appelle, elle savait pas qu'on avait postulé, mais elle nous appelle pour dire oui, je connais votre entreprise, je pense que ça serait bien que vous participiez à l'émission, etc. Et donc nous on était là, oui c'est génial, on a déjà déposé notre dossier, donc ça s'est fait comme ça. Et donc, on a su qu'on allait pouvoir participer à l'émission. Et donc, on tournait en septembre. Là, on se dit, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Parce qu'en fait, d'un coup, tu te dis, mais attends, en fait, il faut que je passe à la télé dans 2 mois. j'ai juste jamais fait ça. On n'avait jamais pitché devant des investisseurs. Donc là, on est passé de là, c'est génial, au mais mon Dieu, mais genre,
gros stress.
Mais comment on va faire? Et sachant que eux, ils briefent sur le fait qu'il faut que tu fasses, il faut que tu décores le plateau pour la télé. Il faut que tu fasses un pitch qui soit hyper convaincant, hyper sexy pour 2 millions de téléspectateurs. Donc nous on dit mais mince, enfin ça va être hyper dur. Donc là j'avoue c'était le stress, on a énormément travaillé pour préparer cette émission, dans le sens où là d'un coup on dit on a une chance, et peut-être que ce sera la seule qu'on aura pour il faut pas se foirer, c'est une super belle opportunité et ça peut changer le futur de Dijon et donc aussi notre vie, donc on s'est mis une énorme pression. Et on avait envie de trouver ce partenaire stratégique pour nous aider à aller plus vite. On a tourné l'émission donc en septembre. Et il faut savoir que tout est tourné en une seule fois. Donc en fait, il ne faut pas reprendre des scènes ou quoi que ce soit. Hein. On est vraiment en conditions réelles. Et sauf que pour le coup, sur le plateau, on reste quasiment plus d'une heure et demie. On reste plus d'une heure et demie, alors qu'à la télé, on va avoir une quinzaine de minutes. Après, je sais pas, tu veux qu'on parle de l'émission, du coup?
Si, carrément. Ouais, c'est hyper intéressant, justement, de voir les coulisses de l'émission. Si, complètement.
Coup, je commence à m'enfoncer dans le truc, mais je me dis, mais en fait, ça ne trouve pas du tout.
Non, vas-y.
On arrive à 8h du matin, dans les locaux de l'enregistrement. On est passé seulement à 13h. Donc, de 8h à 13h, t'as bien le temps de stresser. En parallèle, tu vois les autres qui passent. Enfin, franchement, moi, c'était le moment le plus stressant de ma vie. Anouk aussi,
je comprends.
Pas en son nom, mais pour elle aussi. Et donc là,
alors ça va, c'est pas du direct. Vous êtes pas tout de suite devant les téléspectateurs, mais bon, faut pas se foirer devant le jury.
Deuxième chance non plus. Et que après,
c'est ça, exactement.
M6 a les images et globalement, ils en font ce qu'ils veulent.
S'ils
veulent passer un passage
c'est
avec lequel toi t'es pas d'accord, tu peux pas en fait.
C'est vrai.
Et c'est très bien le sens où c'est pas truqué, mais c'est vrai que pour toi tu te dis vraiment je peux pas me foirer. Et, Et voilà, et du coup, on est arrivé à 8h, on passe à 13h, on nous dit « Allez, go, c'est bon, on y va ». Là, on déroule le pitch, donc forcément hyper stressant, mais on l'avait appris par cœur de chez par cœur. Parce qu'on s'était dit, en fait, t'as 3 minutes pour pitcher, enfin, t'as pas le droit à l'erreur. Et on savait qu'en stress, on allait sûrement être... voilà, avoir les idées aussi qui vont pas forcément dans le bon ordre. Donc on avait vraiment hyper appris notre pitch et fin du pitch, on a là une heure de questions-réponses avec les investisseurs. Et à la fin des questions, c'est là où ils prennent la parole et ils te disent effectivement, bah je suis prêt ou pas à te faire une proposition. Et en fait, nous on rêvait d'avoir Isabelle Chevalier avec nous. Isabelle Chevalier, donc je recontextualise, mais elle vient du Canada et elle a monté une boîte, une entreprise de probiotiques qui a fait des milliards de chiffres d'affaires, enfin vraiment incroyable. Donc on se dit, bah quelqu'un comme ça, ça peut vraiment nous faire accélérer le développement. Et en fait, c'est la première à parler, c'est la première à nous dire non, j'y vais pas. Et du coup,
C'était parce que c'était un conflit d'intérêts, non, ou quelque chose comme ça.
Je pense qu'il y avait un peu de ça, ouais. Je pense qu'il y avait un peu de ça, alors que nous, on rêvait qu'elle nous prenne sous son aile. Donc là, c'est un premier coup dur. On se dit, oula, ok, Isabelle ne vient pas, ok. Ensuite, Anthony Bourbon, qui est l'expert des marques digitales, nous ont dit non parce que conflit d'intérêt avec une autre boîte dans laquelle il est investi. Donc là, deuxième coup dur. Jean-Pierre Nadir qui nous dit que il nous félicite pour nos chiffres etc, mais il nous dit que c'est pas son domaine, donc on se dit oula, ok,
aïe.
Et là on a Eric et l'archevêque dont tu parlais au début et Delphine André qui nous font tous les deux une proposition mais qui négocient la valorisation. Donc nous on avait vraiment valorisé notre boîte de manière assez honnête. Honnêtement, quand je vois les autres startups qui sont passées dans qui veut être mon associé, enfin nous par rapport à nos chiffres, vraiment on avait été super honnêtes. Et donc on avait demandé 250 000 euros contre 8% et eux nous proposent 250 000 euros contre 10%. Déjà forcément nous on se dit bon bah c'est pas trop ce qu'on avait demandé et on se dit bah s'ils négocient c'est que ils croient peut-être pas assez au projet, voilà. Et ensuite, dans leur proposition stratégique, bah, c'est vrai qu'Éric Larchevêque, avec un peu d'humour, dit « Bon, bah moi, c'est pas mon domaine, mais on demandera à notre ami Anthony Bourbon, qui avait proposé 5 minutes avant, de nous aider graphiquement. » Donc, on se dit « Bon, bah en fait, ok, mais enfin quand même, nous, ça fait 3 ans qu'on monte notre boîte avec nos tripes.
Ouais. »
Et là, on a besoin de quelqu'un qui soit convaincu de notre mission et qui dise, mais les filles, mais go, mais moi, je viens avec vous et on va faire la guerre ensemble, quoi. Et là, on ne ressent pas trop ça. Delphine André, on ne le sent pas trop non plus. Elle nous propose de nous mettre dans ses spas et ses hôtels pour la distribution des produits. Mais bon, en termes de proposition d'accompagnement stratégique, ça ne va pas plus loin que ça. Et du coup, on est un peu... On est un peu dans le doute parce que d'un côté, on se dit, mais comment on peut refuser la proposition de tels investisseurs? Et puis, finalement, est-ce que même on peut refuser? Ça s'est jamais vu dans l'émission. Les gens disent oui ou alors les investisseurs disent non. Mais bon, on se dit un peu, bon,
c'est assez inédit.
Et puis en plus, tu te sens tout petit par rapport à ces personnes qui ont déjà réussi, qui ont fait des super belles boîtes. Donc tu dis, bah non, mais attends, on va pas dire non à ces gens-là quand même, c'est pas possible. Mais en même temps, on est dans le doute. Et du coup, on revient sur le plateau avec une proposition à 9% en se disant, bah...
Vous avez combien de temps réellement pour contrer ou accepter une proposition?
On prend 5 minutes à peu près, quoi, pour réfléchir.
Ah oui, c'est vraiment 5 minutes comme dans l'émission.
Ouais, ça va assez vite. Ouais. Après, tu peux prendre.
Pas poser, bah, vraiment, appeler des gens.
En fait, tu peux pas appeler des gens. Tu peux faire venir des gens qui sont avec toi sur le plateau. Mais nous, il y avait justement nos trois collaborateurs. Mais c'est vrai que cette décision est tellement stratégique qu'on préfère en discuter entre nous, quoi. Et en fait, on revient avec 9% en se disant, on va voir s'ils sont quand même prêts à faire un petit effort et montrer qu'ils ont vraiment envie de venir dans le projet. Et là, ils ont dit non. Donc là, on s'est dit, mince, mais qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on a hésité et on s'est dit, en fait, on est trop dans le doute. on est trop dans le doute. Donc s'il y a un doute, c'est que c'est qu'on n'a pas été convaincu.
Ouais,
voilà,
c'est
qu'il n'y a pas de doute. Donc on a fini par refuser et ça a été une décision hyper difficile. Anouk d'ailleurs, elle sort en pleurs. On le voit pas de sur le, on le voit pas trop dans l'émission, mais en fait au moment où on dit non à la fin, il y a Anouk qui commence à pleurer sur le plateau, qui me prend la main en me disant genre il faut qu'on sorte. Et du coup moi, on se retrouve sur le plateau. Moi du coup je suis en mode mais elle est où la sortie, alors qu'on était rentré sorti 4 fois sur le plateau, et là j'étais en mode mais pas où on sort.
Ouais, vous étiez complètement désarçonnée, quoi.
Et donc voilà, on est sorti en se disant bon bah on a pris cette décision parce que on pensait que c'était la bonne, et justement juste après t'es quand même tu te doutes quand même beaucoup de ce que tu viens de dire, tu te dis mais est-ce que je peux passer à côté d'une opportunité de dingue. Et puis quelques jours après, l'émotion a redescendu, le stress aussi, et on s'est dit bon ben non, enfin je pense qu'on a pris, je pense qu'on a fait le bon choix. Ouais.
Complètement.
Une sacrée épreuve.
Vous revenez à votre ouais, bah bien sûr, et puis vous revenez à votre idée de base où vous vouliez vraiment quelqu'un de ultra investi, et donc si ils ont pas accepté aussi ce que vous proposiez, c'est que c'était pas forcément les bonnes personnes. Mais je comprends que ça doit être hyper remuant. Vous avez des insights pour, vous avez des conseils pour préparer vos pitchs qui sont pour la plupart très bien ficelés.
Alors le premier conseil, c'est vraiment d'avoir en tête qu'il faut que tu expliques ton projet, enfin, et utiliser des. Ah, je recommence, pardon. il faut vraiment avoir en tête que tu vas expliquer ton projet à des gens qui n'y connaissent rien. Donc, nous, on adore dire vraiment explique-leur comme si tu parlais à des enfants de maternelle ou comme si tu expliquais à ta grand-mère. Enfin, il faut vraiment utiliser des mots simples et expliquer les choses simplement. Et c'est vrai que quand tu montes ta boîte, t'as envie de tout raconter parce que t'as l'impression que tout est super important. Mais en fait, pour des gens de l'extérieur, non, il faut vraiment faire quelque chose de simple pour leur expliquer de manière super synthétique, parce que sinon, tu les perds. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Et le deuxième conseil... c'est effectivement, enfin en termes de structure, il y a plein de méthodos, mais il faut expliquer pourquoi t'as monté ta boîte, qu'est-ce qui t'a mené à ça, c'est super intéressant. Finalement vraiment ta mission, ton projet, c'est quoi l'envergure de ton projet, sortir un peu de tout ce que tu fais au quotidien, mais vraiment prendre du recul sur ok. Qu'est-ce qui m'a amené à faire cette boîte et où est-ce que je veux l'emmener? Voilà. Et après, dans l'exercice oral, vraiment, il faut répéter. Il n'y a pas de secret. Tu répètes 10 fois, bah, la 11e, ce sera mieux. La 12e, ce sera encore mieux. Donc, répéter, clarifier. Et voilà. Après, je pense que selon les projets... bien sûr qu'il y a des points sur lesquels appuyer, et puis il y a des choses qu'il faut dire, enfin les KPIs, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment faire sentir l'ADN du projet, tes valeurs, et tout ce que tu mets dedans, quoi.
Exactement. Si on parle de l'après-émission, comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que ça vous a apporté et ça vous apporte aujourd'hui?
Alors, comment on a vécu donc le jour J de l'émission? On l'a pas très bien vécu. En fait, on avait hyper hâte. En même temps, on était hyper stressés. Et il faut savoir qu'on a énormément travaillé pour préparer le passage, pour préparer le site internet, pour préparer le compte Instagram, pour préparer la communication. Donc, ça faisait un mois qu'on était vraiment dans un tunnel. Et du coup, le soir de la mission, on était un peu en mode en bout de course, quoi, genre fatigué. Et on avait hâte, mais on était hyper stressés parce qu'en fait...
vous saviez
mais
pas
ce qu'elle allait
diffuser,
en fait.
Diffuser, en
c'est
fait.
Ça. Donc, toi, ça fait plusieurs mois que tu as tourné le truc. Tu te rappelles, mais en même temps, tu te dis, mais j'étais hyper stressée. Je me rappelle plus que ce que j'ai pu dire, comment je l'ai dit. Et du coup, enfin, nous, on avait trop peur que finalement, je sais pas, que le passage n'aille pas dans notre sens ou que les messages soient mal perçus. Enfin, on avait un peu peur. Et donc, non, on a fait ça, la soirée de Kibet, mon associé, on l'a faite au bureau avec notre équipe et vraiment nos proches, on était une dizaine. Et j'avoue, on a regardé, on a plus regardé le site internet et si ça fonctionnait bien que l'émission l'émission en tant que telle, parce que lui-même c'est hyper dur de se voir en vidéo. Enfin, c'est pas moi, c'est un truc que je déteste personnellement. Donc, c'était pas très agréable, mais c'était assez impressionnant de voir tous les gens qui se connectaient à ce moment-là sur le site internet. Donc là, tu dis ok, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est tellement énorme que d'un coup, tu te passes un peu en tant qu'observateur. T'es là, tu dis de toute façon, je peux rien faire, donc je laisse le truc se faire. Et du coup, c'était super, c'était assez irréel en fait de voir que. Bah, pour donner un chiffre, en 2 heures, on a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires.
Waouh!
Donc, sachant que nous, normalement, en une journée, on faisait autour entre 2 000 et 3 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, en 2 heures, on fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, d'un coup, on se dit, ok, enfin. Genre, on s'attendait à avoir un pic, mais on s'attendait pas à ça. Et ensuite, ça a continué. Et post-émission, ça a été assez incroyable parce que nous, on a énormément communiqué sur notre passage pour expliquer aux gens notre décision. Et en fait, on a reçu plein de messages de soutien sur le côté entrepreneur, mais aussi plein de messages justement de clients qui nous soutenaient, qui nous félicitaient pour notre passage. Et du coup, là, on était, pendant quelques semaines, on est encore, mais on est vraiment sur un petit nuage, quoi, de se dire, mais c'est incroyable ce qui se passe. Et en fait, en termes de visibilité, comme je disais, on passe devant 2 millions de téléspectateurs. Donc nous, en fait, à notre échelle, ça nous était jamais arrivé de prendre la parole devant autant de personnes et d'avoir une audience comme celle-ci. On n'avait jamais fait de télé. Et en fait, d'un coup, tu prends la mesure de ce que c'est la télé. Parce que nous, alors, on a toujours été assez présentes sur les réseaux sociaux, donc on avait l'impression d'être super connues et tout, mais en fait, tu te rends compte que pas du tout, que personne te connaît. La télé, ça s'est passé dans un...
Et c'est vraiment la télé qui est un booster de fou. Et d'ailleurs, si on pense à quelques conseils que pour ceux qui veulent, par exemple, faire l'émission l'année prochaine, pour vous, qu'est-ce qui a fait la différence dans votre candidature? C'est vraiment...
La personne, en l'occurrence, elle nous avait repéré sur les réseaux. Donc, je pense que c'est vraiment notre communication qui a fait la différence. Le fait qu'on incarne le projet aussi, parce que je pense qu'ils cherchent des entrepreneurs qui incarnent le projet. Le fait qu'on ait une histoire à raconter, notre histoire d'amitié, l'histoire d'Anouk avec sa maladie. Je pense que c'est vraiment le côté storytelling qui a fait que... Et le fait qu'on soit un produit dans l'air du temps, parce qu'on parle de bien-être, c'est vraiment des choses super importantes à la télé, dans qui peut être mon associé. Enfin, on le voit, c'est que des projets vraiment dans l'air du temps, quoi. Donc, et sinon, vraiment, faut tout donner. Hein, si vous voulez le faire, faut contacter tous les gens que vous pouvez sur LinkedIn, déposer les produits à la production. Enfin, vraiment... il faut y aller, quoi.
Quelles sont les grandes leçons que tu peux tirer de cette aventure entrepreneuriale d'Ijo, tant en termes business que personnel?
En termes business, je retiens un truc, c'est que c'est important de se faire confiance, dans le sens où quand on lance sa boîte, très vite, t'as beaucoup de gens autour qui viennent te dire ce que tu devrais faire, en fait, alors qu'eux-mêmes n'ont pas lancé leur boîte, bien évidemment. Et en fait, c'est vrai que nous, à ce moment-là, on n'est pas forcément beaucoup de confiance en nous en tant qu'entrepreneurs. Enfin, on n'avait rien prouvé à personne encore. Donc, c'est vrai que tu as tendance à écouter... nous, on a tendance énormément à écouter énormément ce qu'on pouvait nous dire. Et notamment, on nous disait, il ne faut pas rester que sur le ventre. C'est un trop petit marché. Il faut vous diversifier. Et nous, on disait, mais nous, on n'a pas envie de faire des trucs auxquels on ne croit pas. Enfin, ça ne nous intéresse pas de faire des trucs pour les cheveux, les ongles. Enfin, c'est pas notre ADN. Et en fait, on est resté sur notre ADN. On était convaincus que nous, notre message, c'était le vent, c'était notre conviction. Et on est resté là-dessus. Et je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, en fait. C'est d'être Dijo, l'expert du ventre, et qui personne, on n'a aucune boîte qui se positionne comme ça aujourd'hui. Au niveau business, je dirais vraiment... de se faire confiance, parce que c'est en étant unique que vous allez faire la différence. Et c'est vrai que quand on monte sa boîte, c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous contacter, qui vont essayer de vous dire quoi faire. Donc c'est hyper important d'écouter, vraiment, hein, il faut avoir de l'humilité quand on monte sa boîte. Il y a énormément de conseils à prendre, Mais il faut aussi avoir confiance en vous, en vos idées et vos convictions, parce qu'encore une fois, si vous faites cette idée-là, c'est que personne ne l'a eu avant. Donc faut la faire avec vous, votre vision des choses. Et ensuite, sur l'aspect business, je dirais aussi, nous, on prend beaucoup la parole justement sur la non-levée de fonds, finalement, le fait qu'on n'ait pas levé de fonds. Parce que aussi, quand tu montes ta boîte, aujourd'hui, tu as l'impression que pour réussir, il faut lever des fonds. Et moi, au contraire, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui avaient levé des fonds et qui avaient regretté d'avoir levé des fonds parce que ça les avait amenés à prendre des mauvaises décisions ou alors perdre finalement le contrôle et l'ADN de la boîte. Donc, je pense qu'il faut que chacun soit aussi aligné avec ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que je pense que pour certaines entreprises, c'est très bien de lever des fonds, notamment sur certains modèles de boîtes. Mais si vous c'est pas votre truc, en fait vous pouvez aussi réussir sans. L'aspect rentabilité, on en a parlé, c'est super important. Et derrière vous avez énormément de solutions pour aller chercher des fonds et des financements qui soient non dilutifs. Donc voilà, restez. C'est vrai que pareil sur la répartition des tâches. En fait, on a tendance à avoir des modèles et des règles, mais en fait, enfin des modèles et des règles, il y en a pas. Il faut pas rester enfermé dans cette vision de il faut avoir un associé avec qui vraiment tu te répartis très bien les tâches, il faut qu'il y en ait une qui fasse le marketing, d'autres la finance, il faut pas se dire pour réussir il faut lever des fonds, enfin voilà, je pense que c'est important de sortir un peu de ce truc de on a toujours l'impression qu'il faut faire d'une certaine manière, croyant en vous et en votre idée, et c'est ça qui va faire la différence. Et à titre perso, moi vraiment, je me rends compte que l'entrepreneuriat, ça m'a ouvert le champ des possibles. Avant de lancer Dijo, notamment, je me rappelle d'un article que j'avais lu sur la fondatrice de Yuka. Et elle avait 28 ans et je me disais, oh là là, mais c'est incroyable ce qu'elle a fait. Mais j'étais hyper admirative. Et je me disais, bah, l'entrepreneuriat, oui, c'est pas pour moi. Enfin, je me disais, bon, bah, faut être, je sais pas, super smart, avoir fait la plus grande école. Et finalement, je me suis dit, mais c'est fou les croyances limitantes qu'on a. Et on va. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'enferment dans des choses, qui rêvent d'autres choses et qui disent, bah non, finalement, c'est peut-être pas pour moi. Et en fait, c'est vraiment. On se met des propres limites et c'est dommage. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, à cause de ça, vont pas forcément suivre la trajectoire dont ils rêvent ou faire le métier qu'ils rêvent parce que ils se mettent tout seuls, ils ont leurs propres peurs, leurs propres doutes et que tout ça, ça les empêche de faire ce qu'ils veulent faire vraiment. Donc à titre perso, l'entrepreneuriat, ça m'a fait vraiment réaliser que tout était possible, que tout était possible et que voilà, on a une seule vie, donc il faut faire tout ce qu'on a envie de faire, et si on se trompe, c'est pas grave, c'est ça qui est incroyable, c'est que nous, on a fait 1 milliard d'erreurs en montant Dijo, mais 1 milliard, et pourtant, en fait, c'est ce qui nous a permis de grandir, c'est génial de faire des erreurs, c'est hyper bénéfique, et en fait, par contre, pour les faire, il faut essayer, et donc, ça sert à rien de rester dans son canapé et de se dire, je pourrais, faites-le, et si vous vous trompez, c'est pas grave, parce que c'est sûr que ça vous amènera à faire autre chose derrière, qui sera encore mieux, donc allez-y.
Hyper précieux tout ce que tu partages, merci beaucoup. Franchement, je pense que ça va totalement aider les auditeurs de l'Aléa, donc vraiment merci infiniment. Laura. On va finir par des petites questions. Ah, c'est pas encore fini. On va finir par des petites questions que je pose toujours à la fin de l'interview, qui sont plus sur toi. Ta définition de l'alignement.
L'alignement, pour moi, c'est être aligné vraiment avec ses propres valeurs, quoi, de se sentir à sa place. C'est marrant, on en parlait justement par rapport à la levée de fonds. Moi, aujourd'hui, je me vois pas dans une boîte avec, par exemple, 200 personnes. Vraiment, ça me correspond pas. Enfin, j'ai pas envie de ça. Peut-être que dans 5 ans ce sera différent, mais en tout cas aujourd'hui j'ai pas envie de ça. J'ai, au début du jeu, on avait envie d'avoir ce truc où on faisait tout nous-mêmes, etc., et de pas lever le fond. Et vraiment, c'est important de rester aligné avec justement ce qu'on veut faire, qui on veut être et comment on veut le faire. Donc pour moi, l'alignement, c'est vraiment aligner ses actes avec ouais, avec qui on est vraiment et la manière dont on a envie de les faire.
Avec ses pensées, ses valeurs et ses actions, ouais. Finalement. Est-ce que tu crois à la chance ?
Je crois à la chance provoquée. Je pense que on dit souvent, on parle souvent de la chance, mais finalement, la chance, je pense vraiment qu'on la provoque. C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne se passera rien tant que vous serez chez vous à ne pas faire ce que vous avez dans la tête. Par contre, si vous commencez à le faire, là, d'un coup, vous allez rencontrer telle personne. On va vous mettre en relation avec telle personne. Alors, on peut dire, j'ai de la chance. Mais en fait, si vous n'aviez pas vous-même, si vous n'étiez pas vous-même mis en action, pris la décision de finalement, je sais pas, quitter votre boulot pour devenir prof de yoga, et ben vous aurez pas non plus rencontré telle personne. Et pour moi, c'est pas la chance, c'est plutôt on la provoque.
Les personnes que tu admires et pourquoi ? Ou la personne que tu admires le plus ?
La personne que j'admire le plus, c'est une bonne question ça. C'est marrant, mais je vais parler de cette nana parce que j'écoutais un podcast sur elle. J'écoutais un podcast sur la fondatrice de Too Good To Go qui s'appelle Lucie. Too Good To Go, c'est une entreprise pour lutter contre le gaspillage alimentaire qui permet aux gens en fait de récupérer des invendus dans des magasins d'alimentation diverses et variées, parce qu'il faut savoir qu'on gaspille énormément d'alimentation. Et en fait, son histoire, elle est super inspirante. Sa vie aussi est super inspirante. Elle est toute jeune, je crois qu'elle a à peine 30 ans aussi. Ça m'a vraiment parlé, parce que je me suis dit qu'elle a monté sa boîte avec justement cet engagement sociétal en disant que voilà, qu'elle voulait vraiment avoir un impact sur la planète. Et je trouve ça incroyable, le parcours qu'elle a eu et l'énergie qu'elle a mis dedans. Donc j'avoue, je suis assez admirative de son parcours.
J'écouterai, je ne connais pas du tout cette entreprise. Tes livres préférés ?
Mes livres préférés ? Il y a un livre que j'ai toujours sur ma table de chevet qui s'appelle « Le moment présent ». Je sais pas si tu connais.
Je connais plusieurs livres sur le moment présent, mais
c'est le pouvoir du moment présent.
Ah oui, voilà, c'est ça. Exactement. C'est le pouvoir du moment présent. Oui, je connais bien
et
sûr.
Voilà, pouvoir du moment présent, c'est un livre que j'ai toujours sur ma table de chevet, souvent dans mon sac. C'est pas un livre que je lis d'une traite, mais je lis un peu passage par passage. Et en fait, ça transmet que finalement, à force d'être stressé de ce que tu vas faire le lendemain ou de penser à ce qui s'est passé il y a une heure, finalement, tu profites jamais de ce qui se passe au moment T et qu'en fait, tu passes un peu à côté de ta vie à cause de tout ça. Et notamment aussi tout ce qui se passe avec forcément les téléphones, etc. Où en fait, finalement, au lieu d'être dans le moment avec la personne, on va être sur notre téléphone à regarder autre chose. Et c'est comme toutes les personnes où, je sais pas, pendant un match de foot ou un... n'importe quoi, tu vas passer ton temps à prendre des photos plutôt que finalement regarder vraiment le match, quoi. Et j'adore, parce que je trouve que c'est vrai qu'on est quand même dans un monde où finalement c'est difficile, hein. Moi, la première, j'ai du mal à pas penser à ce qui va se passer dans une heure, à pas penser à mon rendez-vous du lendemain. Mais ça fait du bien de se poser vraiment dans ce moment présent. Et je fais un peu de yoga et je trouve que le yoga, moi, c'est vraiment la pratique qui m'amène à me connecter, à monter avec mon corps, ma tête, mon corps, et me dire, ok, là, en fait, je suis dans cette salle pour faire une pratique pour moi et je pense à rien d'autre. Et c'est... Moi, je trouve beaucoup ça dans le sport, notamment dans le yoga, justement, ce côté, ok, là, maintenant, je suis connectée à mes sensations, mon corps, et je me préoccupe pas de ce qui se passe autour, de ce qui s'est passé il y a une heure, ni de ce qui va se passer demain, quoi.
Ouais, exactement. Moi, je fais de la respiration en ce moment. Je fais la respiration soma. Et c'est vrai que, pendant que tu respires aussi, tu penses à rien, en fait. T'es juste concentré sur ton souffle et ça fait un bien.
C'est vrai. C'est vrai, ça.
Tes citations préférées.
Ouah, c'est dur comme question. J'en ai pas comme ça. Je sais pas s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est pas une citation, non?
Ouais, ça peut l'être.
Ça peut l'être. Non, mais ouais. Allez, ça va.
Ça va rentrer.
Non, ouais. Ouais, ouais. Effectivement, donc, alors, je sais pas si c'est une citation, mais je dis toujours, on se dit toujours avec Anouk, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'alignement. Mais en fait, voilà, quand on doute, quand on sent pas le truc, c'est que honnêtement, faut pas y aller.
Ouais,
quoi,
quand c'est pas fluide.
Et nous, c'est marrant, mais encore une fois, Dijo, c'est l'histoire de beaucoup de rencontres. Et il y a des gens, enfin notamment avec qui on bosse encore, où en fait, au bout de deux minutes, on savait que c'était des gens avec qui on avait travaillé pendant longtemps. Et à contrario, plein de personnes, on ressort de leur rendez-vous, on se dit bon, bah, on n'a pas, non, c'est pas le fit, c'est pas possible, quoi. Donc je pense que c'est important d'écouter ce qu'on a à l'intérieur, et quand il y a un doute, il y a pas de doute. Je trouve que c'est pas mal. Je l'utilise pas mal dans ma vie au quotidien, de me dire bon, il y a un doute, il y a pas de doute. En tout cas, c'est pas le moment, on verra plus tard.
Et ma dernière question, qui est ma question rituelle du podcast, que t'évoque maximiser le potentiel de sa vie?
Maximiser le potentiel de ma vie. Ça m'évoque justement vraiment le côté, on a une seule vie, on sait pas concrètement ce qui peut se passer de bien ou de pas bien dans cette vie-là. Et je pense qu'il faut prendre la mesure que justement tout peut s'arrêter très vite, que d'un coup, aujourd'hui par exemple, moi, dans ma vie, je me sens très épanouie. L'entreprise, voilà, je développe mon entreprise, ça se passe bien. J'ai une super famille, j'ai des super amis, j'ai un amoureux génial. Tout va bien, et je crois qu'il faut vraiment profiter de ces moments où tout va bien. Et on a tendance à se laisser polluer par plein de petites choses qui ne sont pas très importantes. Et du coup, j'aime bien me dire quelque chose quand j'ai quelque chose qui me contrarie, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Pro ou perso, il y a toujours un truc où tu dis, ah là, c'est énervant et ça me contrarie. Et je me demande toujours, est-ce que dans deux mois, cette chose-là, je m'en souviendrai? Et en fait, quand je me dis non, je me dis, ouais, bah, c'est pas important. Et donc, maximiser le potentiel de la vie, pour moi, c'est mener toutes les actions qui font qu'au quotidien, t'es heureux, en fait. Parce que tu dis toujours, il y a des personnes qui vont dire, bah moi, je travaille comme un chien jusqu'à 40 ans, et à 40 ans, j'arrête de travailler. Mais en fait, entre maintenant et 40 ans, il y a 10 ans. Donc pendant 10 ans, il va se passer quoi? Est-ce que pendant 10 ans, tu vas pas justement passer à côté de ta vie de famille, de tes amis, potentiellement avoir des problèmes de santé? Voilà, donc je pense qu'il faut être beaucoup dans le moment présent. Et essayer de pas s'encombrer avec les choses qui finalement ne le sont pas, quoi.
Merci beaucoup, Lisa.
j'espère que ça va intéresser tout le monde. Et puis, j'ai adoré en tout cas ce moment avec toi, Laura. Donc, merci de m'avoir accueilli sur le podcast. C'est super.
Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.